Jean dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Mickaël Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Once free, always free. Une fois libre, toujours libre. Le slogan figure au début du premier et du dernier chapitre de l'album dont nous allons parler aujourd'hui. Il fait référence à l'abolition de l'esclavage et de fait, c'est bien de liberté dont il s'agit à travers les destins de deux hommes d'exception réunis par la boxe. À ma gauche, Jack Johnson, premier champion du monde noir de la catégorie poids lourd, surnommé le géant de Galveston. À ma droite, Arthur Cravant, le poète aux cheveux les plus courts du monde, le dandy boxeur aux gants bourrés de boucles de cheveux de femme. Un duel en noir et blanc raconté dans un album en noir et blanc par nos deux invités. À ma gauche, le dessinateur Grégoire Carlet. À ma droite, la scénariste Nine Antico. Il était deux fois Arthur, un album publié aux éditions Dupuis. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Une fois n'est pas coutume, je voudrais qu'on commence par évoquer avec vous, Grégoire Carlet, la couverture de l'album. C'est toujours important, hein, un dessin de couverture. C'est un élément décisif pour attirer le regard du lecteur potentiel et de l'acheteur potentiel aussi, d'ailleurs, pendant qu'on y est. Et là, on a donc deux boxeurs qu'on reconnaît évidemment tout de suite à leurs gants de boxe. Alors, on ne sait pas très bien s'ils sont en train de se battre ou en train de s'embrasser. Il y a un côté combat, mais il y a aussi un côté presque fraternel dans leur posture. Vous nous racontez le choix de ce dessin?
Oui, alors, le traitement de la couverture, je l'ai voulu assez pictural, peut-être en y injectant quelque chose, un aspect peut-être un peu plus abstrait, moins concret que le reste de l'ouvrage. Et ça se réfère aussi au chapitre central du livre où les deux personnages se rencontrent, où là aussi j'ai voulu à ce moment-là traiter les choses de manière un petit peu plus picturale pour donner vraiment essayer de donner une impression plus vraiment de faire ressortir cette énergie qui animait ces deux corps. Donc là, on voit ces deux personnages qui s'enlacent et on voit le corps de Johnson qui sort presque du noir avec juste des taches de lumière sur son dos qu'on pourrait assimiler peut-être à de la sueur. Et en effet, il y a juste les gens, deux gants de boxe qui dépassent des corps, qui peuvent donner, enfin trois gants de boxe qui peuvent donner une indication, et l'œil, juste un œil qui sort, un point d'ancrage.
Alors l'œil, c'est très étonnant parce que je ne sais pas si la comparaison va vous paraître originale, juste ou pas, mais il y a un petit côté Picasso, je trouve, dans votre œil.
Ah oui, et un peu égyptien cet œil.
Voilà.
Ça, je pense, c'est assez juste. Oui, ça participe à cette idée de peut-être de rendu plus peinture, plus pictural et moins dans l'anecdote. Pour vraiment essayer de transcrire ce le mouvement et une énergie. J'avais envie que ce soit un visuel qui saute aux yeux.
Donc, visuel en noir et blanc, deux hommes face à face et enlacés en même temps, un noir et un blanc. Le blanc, c'est donc Arthur Cravant, le noir, Jack Johnson, né John Arthur Johnson. Voici donc nos deux Arthur, Nine Antico, deux personnages réels, deux personnages qui ont marqué l'histoire. Quelle histoire d'ailleurs? L'histoire de la boxe, l'histoire de l'antiracisme, l'histoire de la liberté, un peu les trois?
Oui, pour Jack Johnson, il a été une figure des droits civiques, mais à son insu en quelque sorte, parce que lui avait milité pour sa propre cause et il a quand même fait avancer les choses, mais dans un individualisme qui caractérise aussi Arthur Cravant, et c'est pourquoi je les ai réunis, alors que donc Arthur Cravant, c'est un boxeur mais amateur, qui est plus connu lui du milieu littéraire, parce que donc il était poète, insolent, trublion, il faisait des happening avant que ça s'appelle comme ça. Enfin, il organisait des conférences où il boxait, où il insultait les gens. Il s'était inspiré d'ailleurs du spectacle de Jack Johnson qu'il avait vu à Paris, où il chantait, où il déclamait ses records. Donc, Cravant connaissait évidemment Jack Johnson en tant que champion.
Leur rencontre, qui est effectivement les pages centrales que Grégoire Carlet évoquait il y a un instant, sur laquelle on va revenir dans un instant. Mais dès le départ, Nine Antico, vous avez voulu raconter l'histoire des deux, ou bien est-ce que c'est l'un des deux personnages qui vous a conduit à l'autre?
Alors vraiment, on m'a posé la question et je ne me souviens plus s'il y a eu un qui a devancé l'autre, mais c'est à peu de choses près. Moi, ce qui est sûr, c'est que leur match en 1916, qui est au centre du livre, il s'est très vite trouvé dans mon envie de récit à la jonction de leurs deux destinées et je serais incapable de dire qui a devancé l'autre. Mais je me souviens que Cravant, je l'ai découvert en allant au Mexique parce qu'on m'avait offert un livre de Patrick Deville qui s'appelle Viva, qui parle de l'exil de Cravant, de Trotsky, de tout ce qui se passait là-bas dans l'intelligentsia qui se retrouvait dans un contexte bien particulier. Et donc il y avait, j'entendais moi pour la première fois parler de Cravant, et ensuite je crois que j'ai fait la jonction avec Johnson qui se retrouvait. Moi je fais de la boxe complètement en amateur, mais donc Johnson c'est une figure quand même légendaire en boxe, et voilà j'ai lu des bouquins par-ci par-là et j'ai recoupé leur destinée.
Alors vous êtes illustratrice vous-même, donc vous auriez pu la dessiner vous-même cette histoire. Pourquoi avez-vous décidé de faire appel à quelqu'un, qui plus est à Grégoire Carlet ?
Eh bien parce que moi j'ai une fascination graphique pour les femmes. En fait, mes récits jusque-là, ils ont des personnages principaux féminins parce que je crois vraiment que je me délecte de... J'ai un répertoire féminin... plus ample. Là, quand je me suis intéressée donc à ces deux hommes, j'ai tout de suite pressenti que je serais pas la mieux placée, que je me réjouirais pas autant à les dessiner que ce qu'ils méritaient, alors que j'avais très envie de les voir exister à l'image, parce qu'ils ont vraiment c'est un peu des fantasmes pour un dessinateur. C'est des géants, quoi. C'est des géants dans leur aura, dans leur stature, dans leur vie. Et mon choix s'est vite porté sur Grégoire, parce que déjà on se connaît bien, on est partenaires d'atelier, on l'était en fait quand on habitait Paris tous les deux. Et moi, j'aime beaucoup son travail et je pense qu'il y a des correspondances entre mon travail et le sien. Il y a un vrai travail du noir et blanc. Il a une façon, je trouve, très glamour. Et moi, c'est ce que je recherche quand même dans le dessin. Quelque chose qui donne, qui dans les corps et dans les répartitions des noirs et blancs, soit, ah oui, attire l'œil et soit graphique. Et lui, il descend de Munoz.
Bon, le noir et blanc, c'était une évidence, Grégoire Carlet. C'est l'histoire, le contenu même du scénario qui vous incitait à faire du noir et blanc, ou c'est parce que c'est tout simplement votre style graphique à vous?
Les deux, en fait. Moi, j'étais... S'il avait fallu travailler en couleur, l'histoire avait un autre timbre, il n'y aurait pas eu de soucis, mais je pense que là, en l'occurrence, vraiment, je pense que là, c'est le fond qui a dicté la forme par rapport au choix du noir et blanc. Clairement, on s'était posé la question au début avec Nine, mais on a très très vite tranché pour le noir et blanc, ça paraissait tout de suite évident. Ouais.
Alors, en réalité, il y a surtout beaucoup de gris quand même.
En fait, oui, il y a beaucoup de la vie qui viennent aussi un petit peu enrober le dessin, des fois le nuancer, des fois lui apporter plus de profondeur ou de chaleur aussi.
Alors justement, quels sont les éléments qui vous incitent à aller plus vers le noir ou plus vers le blanc dans telle ou telle scène? C'est le récit, c'est la narration, ou c'est vraiment une visée au contraire beaucoup plus esthétique, purement picturale?
Alors je pense qu'il y a vraiment les trois. Ça dépend vraiment des mises en scène, ça dépend des situations, quoi. C'est vrai que des fois j'ai clairement des idées tout de suite au moment du crayonné où je vais juste esquisser la scène. Là je vais des fois avoir déjà une idée très très proche de ce que je veux, par exemple surtout dans les décors, quand c'est des décors urbains à New York ou Chicago, où là clairement, là où quand je veux par exemple donner une notion de plan, d'espace, pour créer de la profondeur, donc là oui, il va y avoir quelque chose de travailler directement avec le grid. Et deux fois il peut y avoir des accidents heureux aussi, ou enfin il y a des surprises aussi, je me laisse aussi des fois de la latitude pour improviser dans certains cas.
Vous m'en direz des nouvelles. Sur RFI.
Nine Antico et Grégoire Carlet sont avec nous pour nous présenter leur album Il était deux fois Arthur, paru chez Dupuis. Les deux Arthurs qui se sont donc affrontés le 23 avril 1916, Plaza de Toros à Barcelone, en Espagne. À ce moment-là, Nine Antico, personne dans le milieu de la boxe ne connaît réellement Arthur Cravant. C'est pas une star de la boxe.
Non, pas du tout, mais il pouvait se faire passer comme tel à l'époque parce qu'il n'y avait pas Internet et l'information la restriction de l'information selon les pays permettait de se fomenter complètement une carrière, et de même que quand il était au Mexique, il s'est fait passer pour un grand champion, Arthur Cravant.
Mais il se prétendait champion d'Europe quand même. Hein.
Oui, enfin il se prétendait sur plein de domaines beaucoup plus grand que ses records concrets. Mais il était boxeur amateur et il avait gagné par forfait de ses partenaires, donc il n'était pas du tout évidemment au même niveau rigolo que Jack Johnson, qui était un vrai champion du monde, quoi, et
qui est beaucoup plus âgé à ce moment-là, puisqu'il a 40 ans en 1916, alors que Cravant, c'est un petit jeune, il a 25 ans.
Hein. Ouais, tout à fait. Mais de base, le combat était factice, était biaisé, et c'était qu'un prétexte pour eux deux. Jack Johnson, qui avait fui les États-Unis, et qui était en exil en Europe, et qui menait grand train, mais qui avait plus trop de rentrée d'argent. Et Arthur Cravant, qui lui voulait fuir l'Europe pour ne pas être incorporé en tant que soldat dans la Première Guerre. Et donc voilà, ça leur a servi pour avoir des sous. Et donc les spectateurs ont bien compris que c'était un coup monté quand ils ont vu avec quelle facilité Johnson pouvait dégommer Cravant dès le premier round, mais il se retenait. Bref, ça a pris 6 rounds et c'était lamentable, alors qu'ils avaient tous payé des billets très cher.
Alors, ce combat-là, vous le racontez justement tous les deux en 8 doubles pages qui résument les 6 rounds du combat. Il n'y a pas de cases, il n'y a pas de bulles, il y a un seul dessin grand format par double page. Et puis en voix off, il y a les commentaires de presse qui sont cités entre guillemets. Notre réalisateur Michael Goncalves a mis en onde cette scène qui se déroule entre les pages 86 et 101 de votre album.
Si la boxe est un spectacle destiné à amuser le public, alors, nous ne savons pas ce qu'est s'amuser.
On observe une nette supériorité de Jack Johnson, qui domine et secoue son rival avec quelques directs.
Des coups de poing encore, des visages bestiaux et des gestes pleins de brutalité sans la moindre grâce. Voilà ce qu'est la boxe.
Johnson baisse la garde pour que Cravant puisse attaquer. Un petit crochet démontre que, s'il le voulait, il mettrait KO le Français.
Johnson, le roi noir, le boxeur aux muscles d'acier et à l'échine de taureau, à l'éternel sourire idiot, le champion du monde qui a vaincu les durs à coups de poing nous évoque un homme préhistorique, dépourvu de la moindre spiritualité. Il n'est qu'une force brute.
Cravant donne l'impression d'être là par obligation. Johnson fait ce qu'il veut de son rival.
Quant à Arthur Cravant, sacré champion d'Europe, on ne sait trop pourquoi on aurait dit un renard tentant d'échapper à un lion.
Cravant est toujours aussi perdu.
Les bras de Johnson sont une véritable catapulte. Les projectiles, tels des coups de marteau, faisaient de Cravant un pantin désarticulé et sanguinolent.
Le Français est lamentable. Johnson pourrait le pulvériser s'il le voulait.
Un nuage de sueur et d'angoisse émanait du ring.
La plaisanterie traîne en longueur. Johnson décide d'y mettre fin. Un direct et un crochet au menton suffisent à mettre Cravant KO.
Au sixième round, Jack Johnson est déclaré vainqueur. C'est ainsi que je poursuivis l'aventure avec Arthur Cravant.
Nino Antico, là on est physiquement au centre de l'album, on est au point de bascule. Avant cette scène, donc la première partie de l'album, c'est le destin de Johnson que vous nous racontez. Après, c'est la vie d'Arthur Cravant que vous nous contez. Là, on est donc au point de jonction, au point de rencontre, au sommet, hein, en quelque sorte, de la rencontre entre les deux personnages. C'est pour cela qu'il fallait au centre de l'album une narration différente, une rythmique différente, pas de case. Pas de bulles, uniquement ces phrases extraites de commentaires de presse.
Oui, parce qu'il fallait que ce soit ce qui renverse le récit, et c'est à partir de là que les trajectoires s'inversent et que le sablier se renverse. Et donc, fallait que ça dépasse les cases. Et puis, c'est la rencontre de ces personnages, c'est la rencontre de deux hommes qui sont sortis du cadre, sortis des cases. Et là, c'est le seul moment dans la bande dessinée où ils sont vraiment réunis. Et fallait que ça soit à la hauteur de leur rencontre.
Graphiquement parlant, Grégoire Carlet, qu'est-ce qui vous intéresse dans la boxe?
Alors, bon, déjà, la boxe de cette époque là dont on parle est vraiment très très différente de la boxe contemporaine. Ça, enfin, même graphiquement, esthétiquement, les corps à l'époque étaient vraiment très différents des corps d'aujourd'hui.
Décrivez-les justement les corps que vous avez dessinés, ceux de Johnson et Cravant.
Alors Cravant a fait un immense bonhomme de plus de 2 mètres qui se cachait quand même souvent sous un énorme manteau de fourrure, parce qu'il était quand même il avait un corps assez mou, assez frêle, surtout pourtant malgré sa haute stature.
Comme si c'était trop pour lui.
Ouais. On a l'impression que ce corps était trop lourd à porter, alors que bon, il était quand même pas très épais. Enfin, bref, par rapport à Johnson, il fait très très guimauve, quoi, très mou, très désarticulé, alors que là, à l'inverse, Johnson a vraiment, pour le coup, un corps absolument splendide, magnifique,
sculptural.
Très sculpté. Ouais. C'est une vraie statue grecque, un Kouros, plutôt une statue peut-être plus archaïque, avec des épaules immenses et et à fois ce bassin assez étroit et ses jambes très longues et très fines. Il n'avait pas non plus une dégaine de brute, de machine à coudre.
Il
avait
quand même
une certaine élégance dans, et on le voit dans sa façon de se mouvoir. On voit tout de suite quand même qu'il y a, il y a une esthétique, même dans le geste, dans le, dans la façon de se, de marcher, de boxer.
Voilà. Alors, on va pas dire qui va gagner, mais enfin, on s'en est déjà plus ou moins douté depuis le début de cette émission. Et donc, on est donc dans cette rencontre, là, sur le ring en 1916, je le disais, au centre, au point de jonction, au point de bascule, disiez-vous, tout à l'heure, de l'histoire, Nino Antico, et le personnage qui a sur la jonction entre les deux, qui sert aussi de narrateur. C'est pas n'importe quel personnage.
Ouais, c'est le chimpanzé consul qui va être ensuite surnommé Bobo et qui.
Donc un singe. Il a existé ce personnage de chimpanzé.
Celui-ci non, mais il y en a eu d'autres en fait, aux Folies Bergères par exemple, ou dans des zoos, des singes qui devenaient des stars, qui étaient humanisés. Alors c'était post-darwinisme, etc. L'homme descend du singe, et donc on allait faire de plus en plus ressembler les singes à des hommes. Et donc on les extirpait de leur jungle, on les mettait dans un milieu humain. Et on les renvoyait ensuite dans les zoos et où ils finissaient lamentablement. Et pour moi, ça représentait ce singe, ça représente exactement le paroxysme de ce qu'ont essayé d'éviter Cravant et Johnson, c'est-à-dire d'être mis dans une case, dans une cage qui plus est, d'être extirpé de son milieu et d'être désigné le singe. On en faisait ce qu'on voulait, et on jouait de son avec lui et on le replaçait. Et quand lui-même s'habituait à son nouveau milieu humain, on lui disait que non, il fallait qu'il retourne derrière une cage avec ses congénères. Donc il y a ce truc de milieu, cette chose hyper forte d'où il vient, où est-ce qu'il veut aller. Et ce qu'on lui impose.
Vous vous êtes un peu amusé quand même en dessinant Consul. Je trouve que c'est le personnage le plus expressif de tout l'album. Ouais. C'est extraordinaire.
Ouais. Moi, je me suis vachement amusé à le dessiner. Puis c'était l'espèce d'élément dionysiaque du bouquin, imprévisible. Et j'en ai fait. Enfin, je me suis souvent amusé à le dessiner souvent en premier plan, avec la gueule ouverte, des immenses canines sorties partout. Enfin, je lui ai donné vraiment un aspect quand même assez violent. En fait, c'est pour moi, c'était vraiment cette espèce de dichotomie entre le fait qu'il soit en costard, qu'il fume le cigare et tout, et cette violence dans l'aspect que je lui donnais, parce que j'avais envie qu'il soit comme ça, quoi.
Mais c'est un être humain, c'est un personnage, c'est un conteur, c'est un singe, c'est un monstre.
Un peu tout ça, oui. Déjà, en tant qu'être humain, c'est le narrateur de l'histoire, en fait, c'est la voix off, bien sûr. C'est pas un être humain, non, justement,
Mais il est habillé comme un être humain, il est grisé, bougé, justement, en permanence aussi.
Il est habillé jusqu'à un certain moment, et donc, ce qui est assez étrange par rapport à cet élément, justement, de dionysiaque, c'est qu'en fait, les trois personnages sont comme ça en même temps, quoi.
Ils font peur, tous les trois.
Voilà, les trois sont assez violents et les trois peuvent faire peur, quoi. Mais, chez le singe, lui, il avait de toute façon, tout était permis puisque c'est un singe, il peut être violent, il peut tout envoyer en l'air.
Alors, et c'est vrai que, donc, c'est lui qui fait la jonction entre les deux personnages, entre les deux parties du récit, et vous racontez, d'ailleurs, tous les deux, l'histoire de deux personnages un peu en miroir. Il y a de temps à autre, alors c'est pas le cas sur toutes les pages, mais de temps à autre des expressions qui se renvoient comme ça la balle, un petit peu comme dans un match de boxe, quoi. Comment vous êtes venu l'idée de cette narration qui, j'imagine, est assez jouissive à construire, mais qui peut être aussi une vraie contrainte, quoi, Nino Antico?
Moi, d'abord, ce qui est venu en premier, c'est donc le chapitre central de leur match, première partie, Jack Johnson qui quitterait les États-Unis et dans lesquels on reviendrait avec la deuxième partie avec Cravant, parce que Cravant, lui, va aux États-Unis. Donc il y a ce relais et la narration inversée, c'est-à-dire que chaque chapitre, que le premier chapitre de Johnson renvoie au premier chapitre de Cravant, je me l'étais formulé. Et en fait, ça s'est complètement conforté au fur et à mesure que je me documentais. Et je le dis dans le dossier de presse qu'il y a une exposition à la Maison Rouge sur les Black Dolls, les poupées noires, donc qui ont été fabriquées par les Noirs pour s'approprier une image, pour avoir une poupée à laquelle ils pouvaient s'identifier. Et il y avait dans cette exposition qui était vraiment somptueuse la poupée, les poupées Topsy-Turvy qui étaient moitié blanches, moitié noires, qui étaient apparemment utilisées par quand dans les cas de métissage quand un propriétaire blanc avait violé l'esclave noir et que donc l'enfant on lui mettait ça dans le berceau pour essayer de jouer, de qui s'y retrouve dans son identité. Et il y avait vraiment cette chose entre Cravant et Johnson qui les liait d'être presque en négatif l'un de l'autre. Moi, en schématisant, je dis que Johnson est un noir qui se prend pour un blanc. Enfin, en tout cas, c'est un noir qui en a rien à foutre d'être noir et qui se considère juste humain et qui a son propre chemin. Et Cravant, lui, c'est un blanc qui fait pas du tout ce qu'on lui demande non plus de son milieu bourgeois, de là d'où il vient, et qui fantasmait beaucoup Jack Johnson, qui fantasmait le corps du sportif, la matière du sportif, l'indépendance, la liberté, et qui parlait aussi de cette d'être noir, en fait, qui fantasmait ça, quoi. Et donc c'est un noir qui se prend pour un blanc et un blanc qui se prend pour un noir.
Come here running, holding up your hand. Can't get me a woman, quick as you get a man. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world.
Sitting on the top of the world, The Mississippi Shakes sur RFI, un morceau qui fait partie des racines du blues et que l'on entend d'ailleurs au détour d'une case de votre récit, Nina Antico et Grégoire Carlé. L'album s'ouvre sur les Battle Royale. Vous pouvez nous expliquer, Grégoire Carlé, c'était quoi une Battle Royale?
C'était une espèce d'arène dans laquelle on mettait un certain nombre de noirs attrapés dans la rue, on leur bandait les yeux et on les faisait cogner à tout va.
On les paye une misère
on
et puis
on donnait un dollar au gagnant. En fait, le gagnant c'est le dernier à rester debout sur le ring tout simplement. Quoi.
Voilà, c'est une sorte de bataille de coq, quoi, ouais. d'une certaine façon, quoi, ouais, voilà, ouais. qui s'inscrit évidemment dans cette époque de l'Amérique ségrégationniste, des lois Jim Crow aux États-Unis. Mais cela, pour reprendre votre expression, Jack Johnson en avait rien à foutre. Vous le disiez d'ailleurs vous-même tout à l'heure. Le racisme, ça ne le touchait pas. En tout cas, il ne donnait pas l'impression d'être particulièrement touché, particulièrement concerné, il n'était le porte-parole de personne. Ce qui l'intéressait, c'était quoi? C'était lui? C'était sa carrière? C'était l'argent? L'identité?
Ouais, c'était la puissance, le pouvoir, enfin le pouvoir qui mène à la liberté. En fait, je pense que ce qu'il voulait, c'était d'avoir de comptes à rendre à personne et se faufiler, donc vivre sans rendre des comptes.
En plus, c'est un vrai showman hein, sur le ring. Il sait enthousiasmer les foules. Hein. C'est vraiment une star, quoi.
Alors après, les foules qui passaient, enfin qui étaient en très large majorité blanches et qui passaient son temps à l'insulter. Et ça, c'était quand même fascinant de se dire que toute sa vie, il s'est fait cracher dessus et il a maintenu cette insolence et cette dérision et ce côté blagueur dont s'est inspiré Mohamed Ali. Enfin, s'est inspiré en tout cas Mohamed Ali se référait à Jack Johnson. Et c'est vrai qu'après Jack Johnson, il n'y a pas eu de boxeur tout de suite comme lui, noir, qui affirmait comme ça leur, comment dirais-je, une ironie, une dérision. Il y a plutôt eu des boxeurs qu'on fait figure, qu'on baissait un peu la tête pour re-rentrer un peu dans les voies, parce que là, à l'époque, des gens comme Booker T. Washington militaient pour un progressisme très doux, très lent, voilà, une façon d'y aller doucement, et Jack Johnson pulvérisait tout, il était vraiment trop bling-bling, avec ses grosses voitures, ses excès de vitesse, ses femmes blanches, le milieu noir lui reprochait de jouer en leur défaveur.
Oui, alors c'est vrai que c'est très très étonnant la façon et dont Jack Johnson se comporte et le regard que ses contemporains portent sur lui, sur son comportement, parce que son manager est blanc.
Ouais.
Hein, donc ça pose de problème finalement à personne. Il va devenir la terreur noire quand il va battre Jim Jeffries, qui est le meilleur poids lourd blanc, qui voulait pas sortir de sa retraite et qui finalement va accepter de rencontrer un boxeur noir, donc d'aller au-delà des préjugés. Et là encore, c'est l'argent le moteur principal, hein. Faut pas se leurrer. Et ce qui fait scandale, on accepte, hein. On va applaudir Johnson, on va le huer aussi, mais on va quand même pour le spectacle. Et on reconnaît comme la force du sportif qu'il était. Mais ce qui passe pas, c'est qu'il a une femme blanche, quoi.
Ouais.
C'est qu'il ose afficher sa réussite, d'une certaine façon.
Ouais, et donc il en paye le prix au point de devoir partir en fugitif des États-Unis parce qu'on fait tomber une loi qui interdit la traite des blanches. Et lui, comme il fréquentait des blanches, qui étaient prostituées effectivement, mais avec qui il se mariait, en fait, c'était...
Il y en a eu plusieurs.
Et moi, j'en parle de juste deux ou trois dans le livre. Mais donc, il y en a une pour laquelle on a fait tomber la loi Mann. Et donc, il a fui en Europe pendant quelques années. Et quand il est revenu, il a dû faire un an de prison. Et puis, de toute façon, sa carrière en avait pris un coup. Il était effectivement vieux. Et il a fait surtout des spectacles, des vaudevilles jusqu'à la fin de ses jours.
Et donc notamment au Nouveau Cirque à Paris. Et c'est là que vous lui faites rencontrer le personnage du singe consul. C'est là aussi qu'il va croiser pour la première fois Cravant, qui danse hein, aussi dans ses bals à la mode parisien. Cette rencontre-là, elle a réellement existé ou bien là pour le coup c'est vous qui l'avez créé?
Non, c'est pas hyper clair combien de fois ils se sont croisés avant Barcelone, mais il y a eu plusieurs fois parce que donc Cravant avait découvert Jack Johnson en spectacle en vaudeville, je ne sais plus où, mais Emmanuel Pouliguen qui a fait l'épilogue mentionne cette première rencontre. Et voilà, il s'était vu plusieurs fois et jusqu'à cette combinaison de matchs à Barcelone.
Oui, et c'est aussi l'un des points finalement qui peut rapprocher aussi les deux personnages, c'est que ce sont deux personnages qui aimaient faire la fête, quoi, qui brûlaient la vie par les deux bouts de la chandelle, quoi.
Oui, ils avaient vraiment cette chose en commun d'être incandescents. On en parlait ce matin. Enfin, c'était des solitaires, des grands rebelles égoïstes, et c'est ça qui m'interrogeait moi, c'est dans quelle mesure cet égoïsme permet quand même de faire avancer les choses, trace un sillon qui devient un moteur pour d'autres. Le goût de l'insolence de Cravant, la façon dont il pouvait insulter des figures auxquelles on n'était pas censé toucher, des artistes. Il avait un fanzine qui s'appelait Maintenant, qu'il distribuait devant le Salon des Indépendants à Paris, où il torpillait tout le monde et tout le monde y passait. Il osait, quoi. Enfin, il osait se mettre à dos tout le monde. Et j'adore sa façon de pas se prendre au sérieux. Et Jack Johnson aussi, il avait ce truc-là. Enfin, c'est des gens qui se prenaient pas pour de la merde, ça c'est sûr et certain, mais qui ne se prenaient pas non plus au sérieux, quoi.
Elle avait un petit bidon polisson avec de jolis petits yeux ronds très fripons. En allant à son magasin chaque matin, vieux et jeunes, tout le monde assimait en voulait. C'était la coqueluche du moment, mais malheureusement, en marchant, Elle faisait un petit bruit, prout, 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 prout. C'était ma foi très gentil, prout, 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 prout. Chacun des noms de là, avec quoi donc elle fait ça? Si un très nom d'un chien, c'est que ça ne sentait rien. Elle faisait un petit bruit, c'était ma foi très gentil, prout, 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 prout. Elle essayait des paires de gants aux clients, et quand ce petit bruit s'entendait, elle disait: c'est un fil qui part trop tendu, c'est rompu. Mais pourtant à certains acheteurs, ça faisait peur. Le patron fut forcé de la remercier pour la raison que je viens de citer. Elle faisait un petit bruit, prout, 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 prout. C'était ma foi très gentil, prout, 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 prout. Chacun disait non de là, avec quoi donc elle fait ça? Ce qui vous intriguait surtout, c'est que ça ne sentait rien du tout. Elle faisait un petit bruit, c'était ma foi très gentil, prout, 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 prout. Elle se plaça dans un restaurant, espérant qu'avec le bruit qu'on y faisait, ça passerait. En servant des pétanes un soir, sans le vouloir, elle dit prout et le client se fâcha, réclama. Et la petite dit pour s'excuser, que c'est mon corset qu'a craqué. Elle faisait un petit bruit, prout, 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 prout. C'était ma foi très gentille, prout, 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 prout. Chacun disait non de là, avec quoi donc elle fait ça? Un parfum fut dégagé, ça leur est peut-être indiqué. Elle faisait un petit bruit, c'était ma foi très gentille, prout, 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 prout. Je fis la connaissance un jour de cet amour. Elle me reçut dans son logement gentiment. J'entendais l'enlaçant la nuit un petit bruit. Je pensais ça ne peut pas s'échapper du sommier. Je lui dis je voudrais savoir pourtant d'où vient ce bruit que tu fais tout le temps. Elle me répond ce petit bruit prout, 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 que l'on trouve si gentil prout, 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 prout. Ne viens pas, je peux te le jurer, d'où l'on pourrait supposer. J'ai un pied articulé que j'oublie tout le temps de graisser. Mais tu vois mon gros bébé, ça ne me gêne pas pour marcher. Prout, 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 prout.
Alors c'est pas forcément évident à l'écoute, c'est Charlus hein, évidemment sur RFI, une chanson populaire, un peu grivoise, disons-le. Pour quelle raison avez-vous choisi ce refrain? Ninandigo, parce qu'il accompagne effectivement la lecture, c'est dans la deuxième partie du livre, lorsqu'il est question des aventures de Cravant. Pourquoi cette chanson-là? Mais elle n'est pas si importante que ça, hein, c'est juste au détour d'une case.
Non, mais ça dit un peu le côté décalé de Cravant, qui alors là, il est au Canada dans ce passage-là, et puis il est pris en autostop, alors que lui, il est déserteur, il est avec son ami, et ils se font prendre en stop par quelqu'un qui leur parle de son fils incorporé, qui est fier de son fils, et il y a Cravant qui chante cette chanson, qui en fait... Voilà, il était toujours à contre-courant du sérieux, de ce qu'il fallait dire ou penser. Il a effectivement un côté potache, un peu.
Voilà, alors lui, pendant la guerre, il déserte, hein, il va même se retrouver sur le même bateau que Trotsky, qui quitte l'Europe pour rejoindre l'Amérique. Est-ce que c'est un anarchiste, Arthur Cravant? Est-ce que c'est le mot qui correspond à ce qu'il était?
Bah lui, il se serait absolument pas qualifié comme ça, j'ai l'impression. Enfin, il fuyait les étiquettes, donc il était juste... éternellement en controverse, en contradiction avec les figures imposées, l'autorité, les communautés, les collectifs, quels qu'ils soient, quoi, artistiques.
Un lâche ou un pacifiste, alors, pourquoi déserte-t-il?
Je pense un peu... Enfin, c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est que lui-même n'a pas de complexe à se dire lâche. Il le dit, qu'ils aillent tous se faire tuer s'ils le veulent, et je pense qu'il assume sa lâcheté, mais ouais, c'est ça qu'il est vraiment, c'est un anti-héros, quoi. Il essaie pas du tout d'être le porte-parole d'un militantisme ou d'un pacifisme. C'est même pas ça, quoi. C'est juste chacun fait ce qu'il veut et moi j'irai pas me faire tuer.
Oui, un lâche, un anti-héros, Grégoire Carlet, et pourtant, il a une présence, quoi. Il a une tête, quand on est avec lui dans une pièce, on ne regarde que lui.
Non, c'est clair que quand on le voit dans... Je me rappelle d'une photo où il est dans un appartement à New York avec deux chats siamois sur les genoux, où les chats on en parlait tout à l'heure, ressemble à des hamsters, tellement il est immense. Et tout le mobilier, pareil, on dirait qu'il est dans une maison de poupée, en fait. C'est juste qu'il est hors norme, déjà, physiquement, c'est clair, quoi. Et il a, en plus, il est souvent, il emploie des artifices pour le grossir encore plus, des chapeaux de forme, d'immenses manteaux de fourrure. Mmh. Donc, c'est un mammouth, en fait.
Voilà, un personnage extrêmement haut en couleur, ouais, qui s'est fait beaucoup d'ennemis dans le monde littéraire et artistique français, hein. Gide, Delaunay, Apollinaire, il a insulté le salon des indépendants, vous le disiez tout à l'heure, Ninantico, il a fréquenté Picabia, Duchamp, il a fait des happenings dans les musées, il y en a un d'ailleurs que vous racontez. Page 118, vous lui faites dire, et je vous cite, « L'art se situe dans les couilles, pas dans le cerveau. »
Ça, c'est de lui. Hein.
Voilà, c'est un provocateur.
Oui, oui. Ça me plaît beaucoup sa façon qu'il a de remettre tous les artistes, de les défaire de les descendre de leur piédestal. Enfin, il met vraiment lui le corps et le vécu et au-dessus du paraître, au-dessus du mot, et sa poésie et ses textes ont vraiment habité ça de manière brute. C'est très très sensoriel, quoi, ça, son écriture, et ça va vraiment de pair avec sa vie, je trouve. Et même quand il parle donc de son oncle qui était Oscar Wilde, c'est toujours dans quelque chose d'organique. Il le ramène à son corps, à son épaisseur, à ses excréments. Enfin, il y a
la peinture, c'est marcher, boire, écrire et faire ses besoins. Là aussi, c'est une phrase qui se trouve dans la loi. Est-ce que c'était un dadaïste avant l'heure pour vous, Ninantico? Parce que c'est ça, il se moquait de la société de son temps.
Oui, j'ai l'impression que c'est devenu une figure de proue pour les dadaïstes mais avant l'heure. Enfin, sur le moment, finalement, je crois qu'il amusait la galerie, mais un peu comme un douanier Rousseau dont on se moquait un peu. J'ai l'impression que Arthur Cravant, on appréciait sa désinvolture et mais son côté ingérable faisait aussi qu'on le laissait à distance et qu'il n'était pas, lui ne voulait pas être incorporé dans un groupe, mais de toute façon, on l'y aurait pas non plus invité. Officiellement.
Voilà. Et puis il y a aussi les femmes. Hein. C'est un petit peu comme ouais. Johnson. Il va notamment séduire et se marier avec la poétesse anglaise Mina Loy. Alors, il y a une scène très très étonnante, Leo Carlet, parce que vous les dessinez tous les deux. Alors Cravant est en train de rafistoler un bateau et sa compagne Mina Loy, elle est un peu plus loin et elle lui envoie depuis la rive des messages en morse en tapant comme ça sur une casserole. D'où est venue l'idée ?
Ça c'est totalement Nina. C'était dans le scénario.
C'était dans le scénario. Ouais. Je vais poser la question à Ninantico. Là, vous êtes dans l'invention. Vous n'avez pas retrouvé une photo où on voit Mina Loy taper sur une casserole.
Dans les récits de Mina Loy, elle racontait leurs derniers instants en commun et au Mexique où effectivement il y avait ce vieux rafio que Cravant rafistolait avant de partir en mer et de disparaître. Et elle parlait, je suis quasi sûre de l'avoir lu, du morse, enfin qu'ils essayaient, parce qu'ils étaient à distance. Donc elle faisait la ménagère et la cuisinière et lui était sur l'eau, quoi. Et donc ils communiquaient de loin. Donc moi, j'ai inventé juste le contenu du dialogue, mais l'usage du morse, c'est elle qui en parlait.
Bon, j'ai pas vérifié les traits, les points, etc. C'est précisément le texte est réel. Tellement en morse, c'est pas au hasard.
Il y a un dictionnaire sur internet où on peut taper ça sort en morse.
Voilà, donc on peut avoir la traduction. Il y a une autre scène aussi que je voudrais que vous commentiez, Grégoire Carlet, c'est la scène de la corrida, parce qu'elle montre bien que Cravant est un homme qui a toujours joué en permanence avec la mort.
Oui, après, Cravant n'a pas fait de corrida.
C'est une allégorie,
C'est une image. Mais j'ai mis donc dans les traits, j'ai mis les traits de Cravant dans ce Toréador,
oui.
Et donc c'est dans cette mise en scène qui ressemble un peu à un ballet. Bah, de toute façon, c'est toujours très 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 violent. Et c'était dans cette deuxième partie du livre, donc dans la partie Cravant, il n'y a pas énormément de combats de boxe. Il y en a juste très vite au Mexique, mais c'est évoqué très rapidement. Et donc c'est des espèces de pendant des combats de boxe du premier chapitre, enfin des premiers chapitres, avec cet énorme taureau noir, mais qui rappelle la bestialité des autres combats.
Alors vous auriez pu terminer tous les deux l'album avec un texte de Cravant, vous avez préféré conclure par quelques vers de Chant de moi-même de l'immense poète américain Walt Whitman, extrait de son recueil Feuilles d'herbe.
Un millier d'acres, c'est beaucoup pour toi ? La terre pour toi c'est grand,
T'aura-t-il fallu toutes ces années pour apprendre à lire? Crois-tu donc, vaniteux, que tu comprends le sens des poèmes? Reste avec moi une nuit et un jour, tu verras. Tu maîtriseras l'origine absolue des poèmes. Tu maîtriseras la richesse de la terre et du soleil. 1 million de soleils inconnus encore à découvrir. Jamais plus tu n'accepteras rien de deuxième ou de troisième main, ni ne verras par les yeux des morts, ni ne te nourriras des spectres livresques, ni ne regarderas rien par mes yeux, ni ne prendras rien de ma main. Mais, oreille ouverte à tous les vents, sera ton propre filtre.
Pourquoi ces quelques vers en guise de conclusion, Nidantico?
Alors, c'est Emmanuel Paulodulian qui m'a dit que Cravon était très inspiré de la poésie de White Whitman. Et il avait même essayé de me faire changer, parce que quand il y a un passage où j'ai Jack Johnson qui récite du Kipling, If, et Emmanuel
voilà,
me disait
homme,
que,
mon fils, voilà, hein, voilà.
Me disait que c'était galvaudé, que c'était pas un poème qui lui plaisait, et moi je disais, mais en l'occurrence, Jack Johnson était vraiment, fan de ce poème qu'il déclamait souvent, et puis qui a une vraie correspondance avec son vécu. Et donc voilà, j'avais hésité, à utiliser Kipling ou Whitman, et donc, ce poème-là particulièrement, il est magnifique, je trouve, parce qu'il résume ce qu'il y a de fier dans leur attitude et de d'individuel, et de se dire voilà, c'est ta vie, c'est ta vision, et il y a que ça qui compte, c'est ne te laisse donner de vision, de perception, d'émotion par personne, vis-les-toi à ta façon, et avant même de les écrire, vis-les, quoi.
Alors, vous disiez tout à l'heure que ces deux personnages, Arthur Cravant et Jack Johnson, avaient ouvert un sillon. Comment est-ce que vous pourriez appeler ce sillon, et qui aujourd'hui se sont glissés dans ce sillon creusé par ces deux personnages-là, Nidantico?
Alors, moi, je c'est pas quelque chose que j'ai mûri comme réflexion, mais j'ai, par exemple, dans ce qu'on vit en ce moment, j'ai l'impression que la révolution et les rebelles et les gens qui n'ont pas peur de déplaire et qui mettent des coups de pied dans la fourmilière, bah c'est tous les gens qui luttent pour les gender studies, pour les mouvements de réappropriation des codes du genre, le mouvement MeToo et tout ce qui se lit là en ce moment, tout ce qui se trame autour de la notion des codes qu'on a toujours eu établis comme tels, féminin, masculin. Et par exemple, ça, je trouve que c'est un vrai coup de pied dans la fourmilière, quoi.
Grégoire Carlet.
Oui, clairement. Après, moi, je les voyais peut-être sur le moment plus comme creuser juste leur propre sillon, de toute façon, sans se soucier du tout, une fois que la charrue allait s'arrêter, savoir si quelqu'un allait remettre l'attelage sur les bœufs ou pas. Mais évidemment, enfin, non, c'est sûr qu'on peut faire des échos à plein de situations actuelles, quoi. Moi, j'aimais, par rapport aussi au poème de Whitman, ça, en fait, il fait pas mal penser à un poème de Cravant aussi, je l'ai plus en tête, mais il dit en gros, j'aurais voulu être riche, j'aurais voulu être pauvre en même temps, j'aurais voulu être un homme, j'aurais voulu être une femme, donc il y a cette espèce d'appétit, on peut y caser plein de choses. Est-ce qu'il y a derrière ça une recherche d'intériorité, de spiritualité, de panthéisme, ou est-ce que c'est vraiment aussi un appétit dévorant pour la vie, plein de choses, quoi. Ça fait écho au poème de Whitman à la fin.
Voilà, on peut effectivement retirer plein de choses, hein, de cet album que vous signez tous les deux aux éditions Dupuis. Merci beaucoup, Nidantico et Grégoire Carlet.
Merci.
Il était deux fois Arthur, un album que 4 de nos auditeurs pourront gagner en répondant à la question du jour par message privé à partir de la page Facebook de l'émission. Vous commencez maintenant à en avoir l'habitude. Alors, la question est la suivante. Dans l'album de Nidantico et Grégoire Carlet, quel animal de cirque devient successivement le compagnon de Jack Johnson et Arthur Cravant? Facile. C'est le troisième personnage principal du récit. On en a parlé tout à l'heure. Et bravo à nos gagnants d'hier. Trésor Kabanga Kaniki Beya de Kinshasa en République démocratique du Congo, Kalilou Tirera de Cotonou au Bénin et Laminka de Thiès au Sénégal. Ils recevront le très beau roman d'Akira Mizubayashi, Âme brisée, paru chez Gallimard. La bonne réponse à la question d'hier était Jean-Sébastien Bach.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avant de se quitter, direction Vienne, en Autriche, sur les traces du troisième homme, ce film mythique du réalisateur britannique Carol Reed avec Orson Welles fête cette année les 70 ans de sa sortie. Pour l'occasion, une exposition se tient jusqu'au 4 janvier prochain au musée du troisième homme pour découvrir ou redécouvrir ce film, une fenêtre sur l'histoire viennoise de l'après-guerre. Reportage d'Isorias.
Peu de films ont tant symbolisé une ville, c'est le cas du troisième homme et de Vienne, la Vienne d'après-guerre, en ruine et occupée comme Berlin par les soviétiques, britanniques, américains et français. Mais il y a une différence de taille entre les deux capitales, comme l'explique Gerhard Strask-Schwantner, un passionné qui a ouvert le musée du troisième homme à Vienne en 2005.
L'histoire se déroule à Vienne car Vienne ne ressemble pas à Berlin. Berlin était divisé en quatre parties par les alliés, mais la Vienne, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, il y a le Ring, un boulevard de 5 km, les anciennes fortifications de la ville. Sur le Ring et à l'intérieur, il y a l'administration de la petite République fédérale d'Autriche, dont les quatre alliés ne pouvaient pas décider qui contrôlait cette zone. Et c'est l'histoire du troisième homme, Harry Lime. Un truand américain trouve Vienne parfaite pour lui, car la police interalliée qui contrôle cette zone centrale de Vienne ne coopère pas. C'est ça le film.
Au musée, l'exposition pour les 70 ans de la sortie du film rassemble des centaines d'objets précieux, affiches, scripts originaux, caméras d'époque, mais on découvre aussi l'histoire de l'Autriche avant et après la Seconde Guerre mondiale. Une série de photographies montre ainsi la vie quotidienne et les difficultés des Viennois au sortir de la guerre. Pourtant, le musée attire peu d'Autrichiens, pour qui cette période reste difficile, selon Gerhard Strask-Schwantner.
On savait à Vienne que des millions de personnes dans le monde avaient vu ce film et les Viennois n'y croyaient pas. Pour eux, les Américains et les Britanniques avaient fait un mauvais film sur la ville. Un film qui montrait les Viennois prêts à fermer les yeux pour de l'argent, qui ne coopéraient pas avec la police, qui fouillaient dans les poubelles pour manger. Cela ne passait pas après la guerre. Les gens ne voulaient pas voir ce genre de choses. Et aujourd'hui, nous avons peu de visiteurs locaux. L'année dernière, pour chaque millier de visiteurs, 24 venaient de Vienne. Cela en dit plus que beaucoup de livres.
Une famille de passionnés organise également des visites de Vienne sur les pas du troisième homme. On passe devant les cafés, les immeubles, les rues aperçues dans le film. Sur le Ring, la guide Kerstin Timmerman s'arrête devant les grands hôtels qui étaient à l'époque fréquentés par les alliés. L'occasion de raconter une anecdote savoureuse sur l'un des acteurs, Trevor Howard, qui joue un officier britannique dans le film.
Un jour, alors qu'il portait déjà son costume d'officier britannique, il se saoula dans un bar et devint grossier. Le propriétaire appela alors une jeep étrangère. Les officiers ne reconnurent pas l'acteur et pensèrent qu'un officier britannique était en train de mal se comporter en public, qu'il fallait donc l'arrêter et le conduire au quartier général.
La visite nous conduit aussi bien sur les grandes artères viennoises que dans de petites ruelles méconnues. C'est dans l'une d'entre elles que l'on entend soudain la célèbre musique du film. Une joueuse de sitar reprend la mélodie composée et interprétée par Anton Karas qui le rendit célèbre dans le monde entier.
Il jouait dans une taverne viennoise à Heuriger. L'équipe du film vint y dîner un jour et trouva que cette musique sonnait très viennoise. Il se dit, enlevons le violon derrière et gardons seulement cette guitare allongée. Il ne savait pas quel instrument c'était. Il s'agissait évidemment d'une sitar, un instrument très autrichien. Plus tard, il joua la musique à la sitar en regardant le film alors que le réalisateur était assis à côté de lui et lui criait, plus vite, plus lentement ou plus fort, plus doucement, pour que cela aille parfaitement avec la scène.
Une musique reprise plus de 400 fois dans tous les styles, notamment par les Beatles, comme on le découvre au musée du troisième homme à Vienne.
Reportage d'Isorias pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI, le point de l'actualité internationale. On se retrouve demain avec Astrid Elliard pour son roman La dernière fois que j'ai vu Adèle, roman qui vient de sortir au Mercure de France, et vous m'en direz des nouvelles.